Aujourd'hui, nous allons partir en Arménie. Courant septembre, nous sommes partis avec le diocèse de Toulouse pour un pèlerinage en Arménie. L'Arménie est un des peuples les plus anciens du monde. Il est trimillénaire. Il fut le premier à adopter le christianisme en 305, encore que cette date actuelle soit contestée et se fixerait plutôt vers 314. C'est un pays du Caucase, sur la route de la soie. Il a un alphabet propre. Sa capitale est Yerevan et actuellement, 30% des Arméniens vivent dans leur pays, le reste étant dispersé dans la diaspora. Elle est composée à plus de 90% d'Arméniens apostoliques, avec à sa tête le Catholicos, et une petite communauté très active, catholique, est rattachée à Rome. Mais les deux églises ont gardé le rite arménien. Leurs relations sont très bonnes et la dernière visite du pape François en Arménie a permis de mettre en évidence la quasi-unité de ces deux églises. Tous les jours, commencions par un temps de prière. Suivi de visites guidées avec notre guide Hepsimé Lévounian.
Alors, je vais vous faire un peu d'histoire. Donc, l'Arménie, commençons de Bodou, on va commencer après Urartu. Donc, c'est l'empire achéménide, persan, qui dure jusqu'à la période des invasions d'Alexandre le Grand. 331-323, c'est les invasions d'Alexandre le Grand. Après quoi, le royaume arménien n'a pas créé, tombe sous la domination des Séleucides, un autre empire qui, à la fin, cède sa place. On parle toujours de l'Asie mineure, bien sûr, aux Romains. L'expansion de l'Empire romain commence vers l'Asie mineure et jusqu'à la frontière arménienne, en l'an 189 avant Jésus-Christ, quand, après une bataille un peu très importante qui est marquée dans l'histoire par le nom, la bataille de Magnésia. Le bourgade s'appelait comme ça. Donc les Séleucides disparaissent de la reine de l'histoire et l'Arménie se profite de ça pour créer son royaume. Le royaume d'Arménie historique, donc 189 avant Jésus-Christ. On parle toujours de ces deux siècles de la dynastie des Artachésides parce que c'était les deux siècles les plus glorieuses, disons, pour les Arméniens dans l'histoire de l'Arménie. 189 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 111 après notre ère, donc à peu près 200 ans. À la dynastie des Artachésides. Puis, vers la moitié du 1er siècle, se crée une autre dynastie, la branche cadette des Partharsacides arméniennes. Alors, les Partharsacides restent au trône jusqu'à l'an 428. Si les Romains, dès le début de leur expansion, avaient compris que l'Arménie devrait rester un royaume militairement fort, parce qu'ayant un voisin considéré un peu comme partenaire aussi militairement fort, ça les défendrait les frontières de leur empire des barbares, comme disaient les Romains, qui pourraient venir du nord et de l'est. Une chose que plus tard n'ont pas compris les Byzantins. Vous savez que en 379, Rome adopte le christianisme. Vous voyez, beaucoup plus tard que les autres pays de l'Asie mineure. Et un an après, Rome et Constantinople rompent définitivement entre eux. Rome devient Empire romain de l'Ouest et l'Empire romain de l'Est adopte le nom Byzance. Donc 380, c'est la naissance de Byzance qui finira avec sa disparition en 1453. Donc 1000 ans, pratiquement plus de 1000 ans, Byzance a régné en gênant toujours tous les pays limitrophes de cet empire. Alors, 387, la Byzance et la Perse, pour la première fois, se mettent d'accord pour diviser l'Arménie entre elles, en zones d'influence, d'administration, de domination, etc. Et l'Arménie, qui est historiquement on connaissait avec deux noms, l'Arménie majeure, Maggiore, la grande Arménie, et Armenia Minore, et la petite Arménie passe sous l'administration de la Byzance et reste là, et la grande Arménie, pratiquement, donc c'est sous la domination, enfin, le roi existait toujours, mais la Perse gênait tout le temps les Arméniennes, imposait des lois, etc., etc. Et donc, après, et ils font tout le possible pour qu'il n'y ait plus de roi sur le trône des Arméniennes. Et après la disparition du dernier descendant de la dynastie des Arsacides arméniennes en 428, l'Arménie pratiquement reste sans roi. Et jusqu'à la période des invasions des Arabes, reste un pays féodal divisé en 15 principautés. Maintenant, l'adoption du christianisme en 301, c'est pendant la dynastie des Partes Arsacides arméniennes. Et la création de l'alphabet arménien aussi. Vous savez, quand les Arméniens deviennent chrétiens et n'avaient pas d'alphabet, les personnes lettrées parlaient le grec, parlaient l'araméen, parlaient même le hébreu, connaissaient plusieurs langues, et les textes sacrés, comme la Bible, les évangiles et tout le reste, pratiquement, on utilisait ces textes d'origine, c'est-à-dire ou c'était en grec, ou c'était en hébreu, ou en araméen. Ces prêtres apprenaient par cœur et récitaient au peuple, ou bien ils traduisaient en regardant les textes d'origine, ils traduisaient simultanément au peuple. Ça veut dire qu'à peu près 100 ans, cette religion restait quand même assez loin du peuple. Le peuple était seulement un spectateur de ses messes, de ses offices, voilà, de ses différents rites et coutumes chrétiennes. Le pays était converti au christianisme, mais le zoroastrisme résistait encore, a existé assez longtemps, et donc, bien sûr, on comprenait bien qu'il fallait qu'il y ait un alphabet. D'abord, pour donner une identité au peuple arménien qui depuis des millénaires existait, était là, et puis de l'autre côté pour traduire ces textes sacrés en langue arménienne. Et voilà, le patriarche et le roi chargent de cette mission ce Mesrop, qui était le secrétaire du roi, une personne très instruite qui parlait plusieurs langues. Donc, et qui accomplit très bien sa mission avec la création de cet alphabet. Il fait cet alphabet-là, vous voyez à gauche avec sa main, il montre les 36 lettres créées. Remarquez, il y a 4 colonnes à raison de 9 lettres dans chaque colonne, donc chaque lettre correspond à un nombre aussi, à un chiffre. de 1 à 9, 10, 60, 90, 100, 900, 1000, 9000. Et un peu comme les romanes, pour des autres chiffres, on faisait la, on mettait côte à côte, voilà, ces lettres. Cette calligraphie existe toujours. On utilise toujours maintenant pour marquer les majuscules imprimées. Vers 11-12e siècle, avec la création d'un autre royaume arménien au bord de la Méditerranée, en face de Chypre, et ce territoire aussi aujourd'hui se trouve en Turquie, la Cilicie, royaume arménien de la Cilicie, qui a existé 3 siècles, les Arméniens se rapprochent assez avec l'Europe. Elles découvrent le cursif. Bon, c'était fantastique. Ça donnait la possibilité d'écrire plus vite, épargnait beaucoup de place. Vous savez combien coûtait chaque feuille de parchemin, de toute façon. Et donc, se crée le cursif. Donc, il y a le cursif écrit à la main et le cursif imprimé. Donc, nous avons et l'un et l'autre. Et donc, cet alphabet, ces majuscules sont utilisées pour les majuscules imprimées. Voilà. Et les 3 autres lettres, après, on ajoute à côté de l'alphabet de Mesrop Mashtot. Écoutez, aujourd'hui, on fait des recherches, on parle un peu de certaines de ces lettres qui, est-ce que c'est par hasard ou est-ce qu'il y a un secret, un énigme que on ne sait pas, on ne connaît pas? Parce que malheureusement, beaucoup d'informations à la fin disparaissent par suite de ces invasions, de ces destructions, de destruction des bibliothèques aussi, etc. Il paraît que certaines lettres correspondent avec le nombre qu'ils font avec certains éléments du tableau de Mendeleïev, tableau de la chimie. Et récemment, j'ai entendu un reportage fait par un prêtre russe qui parlait de ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à voir et à apprendre. C'est clair qu'un peuple qui existait si longtemps, sûrement avait un moyen de s'exprimer et d'écrire aussi. Mais ce passage de zoroastrisme à christianisme, il faut reconnaître que là aussi, beaucoup de choses ont été détruites. Beaucoup, beaucoup de choses se sont disparues parce que les mêmes chrétiens détruisaient tout ce qu'il y avait avant pour qu'il n'y ait pas de traces, pour que le peuple s'habitue tout de suite à ces changements-là. Et on veut ou on veut pas, il faut reconnaître ça. Aujourd'hui, nous accusons ces musulmans, ces islamistes qui détruisent des civilisations anciennes. Mais si on regarde l'histoire, combien de civilisations pareilles ont été rasées, proprement dites, rasées. Donc, et maintenant, nous, on va chercher, on creuse la terre pour trouver des bribes de ce que nous avons perdu. Donc, surtout, les Arméniens ont encore beaucoup de choses à chercher. Je vais vous dire que, archéologiquement, l'Arménie est très peu étudiée. Très peu. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de moyens. Les recherches les plus efficaces, c'est de faire avec des expéditions étrangères. Se mettre ensemble un peu. Comme ça, des découvertes importantes aussi ne se disparaîtront pas. Ce qui arrive, ça aussi, très souvent. Et c'est l'histoire de la plus ancienne chaussure du monde. Je vous en parlerai de toute façon. C'était récemment trouvé. Alors, vous voyez la statue symbolique du créateur de l'alphabet. Symbolique parce qu'on n'a pas de portrait. Il était moine. Donc, avec la barbe, la soutane, c'est clair. C'était une personne assez intelligente, à tel point qu'il a créé un alphabet qui maintenant aussi fait parler les scientifiques aussi. Donc, avec un air solennel et intelligent. Agenouillé devant lui, c'est l'un de ses élèves qui s'appelait Koryoun et qui a écrit la biographie de Mesrop, et grâce à cette biographie, on a plein de détails sur la création de l'alphabet. On va voir les manuscrits.
Alors,
pour le Matin d'Aran. La bibliothèque des manuscrits. Manuscrit Matian, ça veut dire manuscrit. C'est du mot arménien mat, ça veut dire le doigt, c'est-à-dire écrit à la main, avec des doigts. Dépôt des manuscrits, ce n'est pas un musée. C'est un institut des recherches scientifiques des anciens manuscrits où il y a différentes sections. Bien sûr, il y a la part de la garde, de la protection des manuscrits, le dépôt des manuscrits. Il y a quelques salles que nous allons visiter et je vais vous parler des manuscrits, non seulement des manuscrits, bien sûr, mais de leur création, de différentes branches de sciences sont représentées dès l'origine, c'est-à-dire dès le début de la création des manuscrits jusqu'au haut Moyen Âge. Et puis, il y a l'atelier de la restauration des manuscrits, la salle de lecture et la salle de recherche un peu où viennent différentes scientifiques, traducteurs, littéraires, théologiens, etc., à étudier ces manuscrits-là. Le bâtiment fut inauguré en 1957. Au début du XXe siècle, avec toutes les péripéties du peuple arménien, guerre, massacre, génocide, enfin, tout ce qu'on a été témoin par l'histoire, c'est le catholicos, le chef de l'église arménienne, qui au début ramassait les manuscrits, essayait de les sauver, de les récupérer, surtout les manuscrits que les gens sauvaient de la Turquie ottomane, de la partie occidentale de l'Arménie historique. En 1921, le gouvernement soviétique arménien confisque aux catholicos la plupart des manuscrits vu leur valeur scientifique, historique, artistique, philosophique, et on les avait mis au musée de l'histoire. C'est après la Deuxième Guerre mondiale seulement qu'on a pu construire ce bâtiment qui est devenu un grand centre au niveau mondial.